Et bienvenue sur le podcast de Moodstep. Quand j'ai créé ce podcast, j'avais mis en sous-titre du podcast « Stimulateur d'intelligence managériale ». Mais c'est tellement plus. On explore tellement des sujets qui touchent à notre savoir-être au travail, à l'intelligence et toutes les intelligences. Et aujourd'hui, on va parler d'une intelligence particulière qui est l'intelligence collective avec Olivier Piazza qui vient de sortir un livre sur « Découvrir l'intelligence collective » aux éditions d'Uno. Avant de commencer, j'aimerais remercier mon sponsor, le Talentoscope, un jeu en intelligence collective où on apprend à se découvrir et à comprendre les autres, notamment leur mode de fonctionnement, et tout ça dans un jeu participatif qui dure 2 heures pour des groupes de, en général, plus de 100 personnes. Pour en savoir plus, tapez talentoscope.fr. Merci à mon sponsor, qui est bien sûr moi-même. Et retrouvons tout de suite Olivier Piazza. Bonjour Olivier.
Bonjour Johanna.
Bienvenue sur ce podcast. Nous allons parler d'intelligence collective. Tu viens de sortir un livre qui s'appelle « Découvrir l'intelligence collective ». Donc ça va être le sujet du podcast. On va découvrir l'intelligence collective. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, alors, donc Olivier, moi, Piazza, je suis aujourd'hui, j'ai en gros deux facettes dans mon activité. Une première qui est autour de l'enseignement à l'université de Cergy-Pontoise, sur en particulier un diplôme universitaire d'intelligence collective, et puis un autre d'exécutif coaching, et un autre de management. Ça, c'est en gros, on va dire, la moitié de mon temps, et l'autre moitié, justement, c'est de pratiquer ces mêmes sujets en tant que facilitateur, coach, ou ce qu'on peut appeler aussi co-designer. Voilà, c'est mon activité aujourd'hui. Et puis, je suis basé à Paris, au Batignolles, et j'ai 4 grands-enfants maintenant. Voilà, que dire d'autre. Et que je me suis mis au vélo avec grand plaisir, là, cet été, et c'est très cool. Dans Paris, je m'amuse bien.
J'ai vu que tu avais fait une école de vétérinaire.
Oui, exact.
Quelle étrangeté. Comment tu en es venu à ça, l'intelligence collective, au coaching ?
Alors, en fait, quand j'ai fait ce premier parcours, c'était par goût, par curiosité, on va dire, pour les animaux, la biologie, le monde un petit peu. Enfin, tu vois, mieux comprendre toute la dimension du fonctionnement, de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est animal. Ça. Voilà, j'ai suivi cette curiosité sans idée du tout de là où ça m'emmènerait et sans réfléchir à ce que voulait dire de façon concrète ce métier. Et progressivement, au cours de mes études, je me suis rendu compte que en fait, ce métier ne collait pas avec ce que je recherchais, dans le sens où il y avait des trop de routine, l'idée de faire la même activité toute ma vie ne me convenait pas du tout. J'avais besoin d'exploration, d'inconnu, de découvrir justement. Donc ça veut dire que je suis sorti de cette activité et c'est là que je suis rentré dans le monde de l'entreprise. D'abord dans le groupe Mars, agroalimentaire. Et puis après,
quel métier tu es rentré dans
le groupe Mars ? Alors ouais, je suis rentré sur un métier de vendeur. Mon rôle, c'était d'aller voir des vétérinaires justement sur des nouveaux aliments qui étaient sortis, qui avaient des propriétés diététiques. Donc en fait, on était toujours dans un rôle de, ou en tout cas dans des conversations autour du soin et de la santé. Donc c'était ça le lien. Et puis après, j'ai bougé, j'ai changé, je suis passé au marketing, après je suis passé en agence de communication, et après dans le monde de l'édition, toujours dans le domaine de la santé, en devenant manager, puis en devenant directeur et tout ça. Et pendant toutes ces années, j'avais commencé à m'intéresser beaucoup à tout ce qui est développement personnel, en fait, pour progresser déjà moi. J'estimais que j'avais beaucoup de choses à découvrir, à apprendre, et puis ensuite, progressivement aussi, pour aider les autres. Et puis, c'est devenu une passion. Et c'est là qu'en 2003, j'ai fait une bascule vers cet univers-là. Quoi.
Ça a été difficile
Parce
que c'est encore un changement de métier. Mais c'est marrant parce qu'en fin de compte, tu avais déjà l'habitude de changer, en tout cas d'univers, même de métier, en passant le marketing, l'édition. Oui. Mais c'était un métier assez nouveau.
Oui, en fait, c'est vrai que moi, j'ai pas mal changé, donc bon, ça développe une certaine, peut-être plus souplesse par rapport à ces changements. Maintenant, c'est vrai que ce changement 2003 était plus important parce que je suis sorti des organisations pour me mettre du côté de la, justement de la prestation, être au service de ces organisations. Et là, j'ai eu plus de tâtonnements. Au début, je voulais partir sur une activité d'édition. C'est là que j'ai ouvert mon blog qui avait fait qu'on s'était rencontrés.
Oui, il y a longtemps d'ailleurs, je pense que ça fait
Ouais.
au moins 10 ans, ça fait peut-être
Ouais,
10 ans.
exactement. Ouais, tout à fait. C'était. Ouais, mais moi, quand le blog, j'avais commencé en 2004. Donc ça remonte un petit peu. Et puis finalement, par les rencontres, dont d'ailleurs, justement, qui ont été déclenchées par mon blog, j'ai rencontré Laurent et Hélène, avec qui on a commencé, voilà, pendant plusieurs années, on a lancé une activité qui était centrée sur justement les interventions collective, ça pouvait être des team building, ça pouvait être des accompagnements d'équipe. C'était toute cette dimension du collectif qui a déjà pris une place très importante et donc on a été ensemble pendant 5 ans.
D'accord.
Ouais.
Et je me demandais aussi, tu as fait partie de ceux qui ont créé la formation à Cergy?
Ouais, celle de oui, du DU Intelligence Collective,
Ouais.
oui. Oui, parce que justement, moi j'ai été impliqué sur justement ce DU Executive Coaching en premier. Et puis à partir de là, donc on forme des coachs alors dans leur dimension coaching individuel, mais aussi dans leur dimension coaching d'équipe. Et en même temps, on commence à avoir une réflexion en se disant que sur la dimension collective, on pouvait aller plus loin que ce qu'on faisait et qu'il y avait aujourd'hui un certain nombre de pratiques qui se développaient, qui étaient convergentes finalement dans un certain nombre de besoins et de compétences. Et puis, moi, j'ai commencé à naviguer dans les mondes de la facilitation, de l'agilité, des choses comme ça. Et progressivement, c'est comme ça qu'avec Florence Demary, on a fait émerger ce projet de DU Intelligence Collective.
Ça doit être passionnant de créer une formation. Et
Ouais,
surtout de
ouais,
voir passer tous les étudiants, de
Oui.
faire évoluer bah,
Oui.
les cours.
Ouais. Alors, ouais, ah oui, c'est carrément passionnant, surtout que vraiment, c'est un programme qu'on fait évoluer chaque année. Et aussi, rapidement, on s'est dit que justement, du fait du contenu de ce programme, donc l'intelligence collective, on voulait que la structuration pédagogique, en tout cas l'équipe pédagogique qui s'en occupe, qui s'en charge, soit beaucoup plus large et que ce ne soit pas réduit à 2 personnes. Donc c'est comme ça que progressivement, on a constitué une équipe de cœur qui est composée maintenant de 6 personnes et qui travaille vraiment ensemble à suivre tout au long de l'année le programme et les étudiants et tout ce qui se présente et en même temps à anticiper les évolutions sur l'année d'après ou les années suivantes. Donc ça, c'est extrêmement riche.
Vous avez des intervenants extérieurs aussi.
Ah oui, on a beaucoup. Ouais, en fait, ça repose beaucoup sur des intervenants extérieurs qui justement apportent autant de pratiques, de regards, de savoir-faire. Et ça, c'est vraiment la richesse, hein. C'est un parcours très, très expérientiel, quoi.
Et donc, si on en vient à cette intelligence collective, déjà, est-ce qu'on pourrait expliquer ce que c'est l'intelligence collective? Ou même ses origines, ça m'intéresse. C'est-à-dire, ça fait pas très longtemps qu'on parle d'intelligence collective, mais pourtant, elle a sûrement toujours existé, et sous quelle forme?
Oui, bah oui, c'est tout à fait ça. Moi, ça fait partie des questions que je me suis posées qui ont guidé mon livre, là, enfin, en tout cas mon exploration. C'est de me dire que finalement, aujourd'hui, on entend parler d'intelligence collective de plusieurs façons différentes. Par exemple, quand on intervient auprès des organisations, surtout dans l'accompagnement des collectifs, bon, bah, ce terme-là, ce concept, est très souvent utilisé. Et il y a donc soit c'est directement formulé dans des demandes de clients, soit il y a des organisations qui en parlent, ou alors c'est les prestataires, que ce soit des coachs ou des facilitateurs, qui disent, bah, nous, on va vous aider à fonctionner en intelligence collective, par exemple, ce genre de terminologie, on va dire. Mais ça, c'est, on va dire, la sphère des organisations. À côté de ça, L'intelligence collective, c'est un concept qui est beaucoup utilisé dans le monde de l'Internet. Et du coup, on peut se dire quel lien, qu'est-ce qui est commun, parce que l'intelligence collective sur Internet, un des grands exemples, c'est Wikipédia, où finalement une encyclopédie comme ça se constitue au fil des années par les contributions bénévoles de milliers d'internautes. C'est assez incroyable finalement, jusqu'à supplanter des acteurs très classiques comme Encarta de Microsoft ou
Oh,
l'encyclopédie
je me
Britannica.
rappelle.
Ben ouais. Donc c'est fou parce que finalement, là on voit que la puissance de ces connexions, de ces contributions qui s'auto-organisent en partie, mais en même temps avec des protocoles de collaboration, ont une puissance qui est juste incroyable en fait. Donc ça, c'est un des exemples phares de l'intelligence collective sur Internet. Et puis, tu parlais de source ou d'origine. Il y a aussi un champ qui est très très important, et là, du coup, ça fait le lien avec la première question que tu m'as posée, c'est le champ justement des animaux, où l'intelligence collective, on en parle beaucoup, par exemple, pour
Les
les fourmis,
fourmis.
voilà, les fourmis, les abeilles, où on peut en parler aussi quand on observe un banc de poissons qui réagit à l'attaque d'un prédateur. Ou alors quand on regarde une nuée d'oiseaux, les plus symboliques étant les étourneaux, c'est un spectacle magique.
C'est incroyable, ils volent tous
Ouais.
ensemble et ils
Ouais.
tournent tous ensemble.
Ouais.
Comment savent-ils qu'il faut tourner à ce moment-là?
Ouais. Et justement, en fait, c'est non seulement très. Nous, on regarde ça, on se dit c'est très esthétique, c'est une sorte de ballet, de chorégraphie, mais aussi, ce qui est super important, c'est que c'est efficace, quoi. Ils font pas ça pour créer un spectacle, c'est parce que ça a des vertus. Pour leur collectif, pour se protéger, pour finalement augmenter leur chance de survie, et ainsi de suite. Donc il y a une réelle construction et production et un bénéfice au niveau du collectif, quoi. Et justement, quand tu disais comment font-ils, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont posé ces questions-là. Et aujourd'hui, il y a des réponses à ces questions-là. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et que moi, j'ai cherché à comprendre, à explorer dans différentes directions pour voir est-ce que toutes ces personnes qui parlent d'intelligence collective dans différents domaines, est-ce que finalement on parle de choses différentes ou est-ce qu'au moins il y a un certain nombre de points communs?
Alors,
Ouais, t'es
quelles sont tes
curieuse, toi.
conclusions?
Eh bien, ma conclusion, moi, c'est qu'il y a des points communs. En particulier, et alors moi ça m'a été très très dans cette recherche pour ce livre, il y a eu des tournants, des choses qui m'ont vraiment beaucoup aidé à poser des choses. Et l'un de ces tournants, ça a été justement ce concept qu'on appelle de système complexe adaptatif. Ces systèmes complexes adaptatifs, finalement, cherchent à expliquer comment se produit finalement un comportement collectif d'un certain nombre d'entités, sans justement qu'il y ait une unité qui gouverne et contrôle l'ensemble. Hein, ça fait penser au Seigneur des Anneaux, un anneau pour les gouverner tous. Et bien justement, là, c'est tout à fait l'opposé. C'est un système où les unités vont s'ajuster, se communiquer par système de feedback régulier et horizontaux, verticaux, dans tous les sens. Et progressivement élaborer un comportement à l'échelon de ce qu'on peut appeler un supra-organisme ou un super-organisme qui est le collectif. Par exemple, si je prends l'exemple des fourmis, quand on pense aux fourmis et qu'on dit oui, l'intelligence collective de fourmis, il y a des personnes qui vont se dire bon, faut peut-être pas exagérer, une fourmi, c'est quand même pas très intelligent, ça se saurait, quoi. Et donc, justement, c'est le reflet d'une erreur de cadrage qu'on fait, de perspective. L'intelligence collective des fourmis, c'est pas la fourmi, c'est le collectif, c'est la colonie des fourmis qui est intelligente.
Oui, ça montre que le collectif est plus intelligent que la somme de ses individus, ou c'est un peu comme le totum de la plante.
Ouais, tout à fait. Et même, en fait, au-delà de ça, que le collectif des fourmis, donc, c'est une forme d'entité. C'est comme un organisme à lui-même qui vit, qui s'ajuste, qui s'adapte et qui s'organise en fonction de ce qui se passe dans son environnement. Et chaque entité, donc chaque fourmi, est un capteur de ce qui se passe, de l'environnement, de la richesse en nutriments, voire de la toxicité de certaines plantes, et ainsi de suite. Et toutes ces informations vont circuler et se propager, et du coup, il va y avoir ajustement des comportements à l'échelon, bien sûr, des petites unités fourmis, mais en même temps, surtout à l'échelon collectif. Donc, c'est assez fascinant.
Donc en fait, si on écoute ce système
Ouais.
des fourmis, beaucoup de l'intelligence collective passe par une bonne communication.
Ouais, tout à fait. C'est sûr que c'est en langage biologique, c'est tout simplement ce qui s'appelle les feedbacks, c'est-à-dire en gros comment une action finalement de l'un va se répercuter sur l'autre et revenir en retour. Hein, c'est l'information qui aide à se positionner. Est-ce qu'une action finalement est utile au groupe et à ce moment-là elle va être renforcée par les suivants? Une fourmi qui se déplace et qui commence à trouver une source de nourriture va revenir avec cette source de nourriture et donc son parcours va petit à petit se renforcer parce que les autres fourmis vont suivre cette piste-là et être aussi enfin avoir autant de succès et de réussite en suivant cette piste. Et donc les phéromones qui vont être déposés sur le parcours vont petit à petit progressivement augmenter en concentration. Et c'est ce qui s'appelle un principe de Stigmergie. Et du coup, ça montre que là, il se passe quelque chose, il y a une source de nourriture qui vaut le coup. Allez-y, suivez la piste et tout le monde sera content.
Mais maintenant, aujourd'hui, on conceptualise l'intelligence collective. Or, elle a toujours existé. Même, je parle chez l'homme là, parce que je sais que ton petit penchant de vétérinaire va nous ramener chez les animaux. Mais chez l'homme, cette intelligence collective a toujours été là. Est-ce qu'on est meilleur aujourd'hui en intelligence collective qu'hier?
Ah, alors, ce qui est évidemment, je parlais tout à l'heure d'animaux, et c'est un point de passage pour comprendre. Après, le sujet essentiel qu'on se pose, c'est celui de l'intelligence collective humaine. Et donc, bah, typiquement, l'Internet a permis de développer une nouvelle forme d'intelligence collective. Beaucoup plus rapide, puisque tu disais tout à l'heure le rôle clé de la communication, eh bien, Internet a permis de connecter des personnes qui étaient à des distances très très importantes, tout d'un coup, comme on est en train de le faire, par réseau, on se retrouve comme si on était face à face, alors qu'on est peut-être à 700 km de distance. Donc, l'Internet a permis une explosion de cette intelligence collective. Ça, c'est une chose, mais au-delà de ça, du côté, de façon plus générale dans la société, l'intelligence collective a pris différentes formes tout au long de notre histoire, et c'est là qu'il y a un certain nombre de, je dirais, d'apprentissages à faire, en particulier en ce qui concerne nos modes d'organisation.
En t'écoutant parler, je pensais à Léonard de Vinci, comme si on venait d'un système où il y avait des grands hommes, des grands savants, des gens qu'on suivait. Et d'ailleurs, on voit même dans les élections présidentielles, on cherche cet homme providentiel. Or, la multiplication des points de contact, grâce à l'Internet notamment, fait qu'aujourd'hui, on aurait très intérêt à utiliser en fait cette intelligence collective qui repose sur bon nombre d'entre nous. Et quelle forme ça prend aujourd'hui l'intelligence collective?
Oui, alors ouais, c'est super important ce que tu soulignes là, c'est-à-dire en fait, culturellement, on est fabriqué, on est façonné avec un regard sur ce qu'on pourrait appeler les grands hommes. D'ailleurs, c'est une focalisation sur les hommes beaucoup plus que sur les femmes. Hein. Si on
Ah bah
regarde,
elles sont cachées derrière, t'inquiète
eh
pas.
ben oui, ben, ouais, mais c'est
Je viens d'apprendre que oui, la femme de Einstein est pour beaucoup sûrement dans ses découvertes, sa première femme.
waouh, c'est génial.
Et jamais elle a été reconnue
Ben
pour
oui,
ça,
ben oui.
quoi.
Et donc, Et donc, en fait, tu vois, nos livres d'histoire, nos apprentissages, ou les façons dont on apprend à l'école, ou la façon dont est structurée la société, la démocratie, ou les organisations, il y a des systèmes qui sont centrés sur des hiérarchies, sur des pyramides, et qui, du coup, c'est vrai que si tu crées une pyramide, de fait, celui qui est positionné tout en haut a un rôle tout à fait particulier. Et on va en attendre beaucoup, on va lui demander tout un ensemble de qualités assez extraordinaires, et on va focaliser beaucoup d'attention à s'interroger, à le choisir, à s'interroger sur ses modes de fonctionnement, sur ses compétences, ses qualités, et tout ça, et ses défauts. Mais aujourd'hui, si on regarde le fonctionnement de l'intelligence collective, donc dans les systèmes vivants ou sur l'Internet, ce que ça nous apprend et ce que ça nous dit, c'est que l'intelligence collective, en fait, c'est un phénomène d'auto-organisation. C'est-à-dire que c'est un collectif qui, par lui-même, va générer ses propres solutions, y compris ses solutions organisationnelles, c'est-à-dire, et des exemples comme ça, on en a beaucoup, hein, des exemples de ce qu'on peut appeler les communs, par exemple, tels que sont dans le monde du travail des coopératives où un certain nombre d'acteurs se réunissent et forment ensemble une activité économique où eux-mêmes sont impliqués dans, enfin choisissent, hein, prennent les décisions de gouvernance, d'orientation et aussi bien sûr les dimensions opérationnelles. Mais on est dans quelque chose qui part des individus, qui part des personnes et qui construit le collectif. Et donc c'est un système qui va être ascendant. Alors que les organisations classiques sont des systèmes descendants. Et la nature, qui finalement est le modèle, je dirais, sous-jacent de l'intelligence collective, la nature nous montre que ce ne sont pas des hiérarchies qui créent de l'intelligence collective, ce sont ce qu'ils appellent des hétérarchies. Hétérarchie. Finalement, des systèmes où l'information, la communication circulent dans tous les sens. Il y a bien une organisation, mais elle n'est pas rigide, elle n'est pas fixe, comme ça peut l'être, et en tout cas, elle ne limite pas la communication telle que ça peut l'être dans les organisations qu'on a construites depuis des siècles.
Donc ça veut dire qu'il faut qu'on repense nos organisations?
Oui, ah oui, complètement. Ah oui, ça c'est clair.
T'en es persuadé?
Bah, en fait, c'est l'histoire qui nous montre ça aujourd'hui. Tu vois, quand tu disais, bah finalement, maintenant, si on se penche du côté de l'homme, on a toujours été en capacité d'avoir de l'intelligence collective. Et oui, il y a des exemples. Il y a des exemples, moi j'en cite un certain nombre dans le livre, de collectifs qui ont su s'organiser, fonctionner sur des principes de parité, et créer quelque chose, hein, produire ou protéger une ressource. De façon durable, de façon équilibrée, équitable pour ce même collectif et soutenable pour la planète. Tu vois, un exemple qui est assez, enfin, qui est vraiment inspirant parmi d'autres, hein, c'est au Pérou. C'est là que finalement on va trouver le plus grand nombre de variétés de pommes de terre. Hein, il y en a des milliers, parce que c'est certes un bassin, on va dire, de culture de la pomme de terre, mais aussi parce qu'ils ont su protéger ce qui, pour eux, avait une importance au-delà de la valeur nutritionnelle. Il y a toute une dimension culturelle aussi. Pour eux, il y a autant de variétés de pommes de terre qu'il y a d'usages et de manières de les consommer, de les célébrer, de les utiliser dans la société. Et donc, il y a des collectifs qui se sont créés, on peut traduire ça en français, ça s'appelle le parc de la pomme de terre, où il y a des milliers en fait de paysans qui vivent et cultivent et protègent cette production et qui ensuite en font un outil aussi d'éducation pour la protection de la nature et la création d'une agroécologie. Donc, et tout ça, c'est fait. Par ce principe d'auto-organisation, mais qui amène progressivement à de réelles organisations. Il y a des coopératives de femmes qui sont en charge justement de créer des vidéos tutoriels. Il y en a d'autres qui sont centrées sur la vente de produits comme dans une coopérative agricole, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'activités qui existent aujourd'hui, qui
Ouais, je crois que
sont.
c'est la même chose avec le maïs d'ailleurs là-bas, au Pérou. Ils ont des maïs violets, des maïs. Mais quand je t'écoute, donc ça veut dire intelligence collective égale parité? Il n'y a pas
Ah.
d'intelligence collective sans parité?
Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est perturbant parce que, en plus, d'ailleurs, c'est pour ça, Internet, ce qui fait la force d'Internet, c'est ce réseau peer-to-peer, de pair à pair en français. C'est ça qui a été complètement disruptif, si on utilise ce terme. Linux a aussi été un exemple, voilà, la création de ce système d'exploitation qui est venu aussi. Aujourd'hui, prendre une place archi-dominante par rapport à d'autres qui étaient des productions commerciales classiques, eh bien, c'est un autre exemple de production pair à pair. Et alors, il y a une grosse confusion, justement, quand on parle de parité, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des rôles différents. Et c'est là qu'il y a confusion. La
Oui,
chose.
chaque rôle est aussi important, les
Oh,
rôles sont importants à la même hauteur, quoi.
Ouais, les rôles sont importants et en fait les rôles c'est beaucoup plus je dirais les personnes qui vont aller vers les rôles et qui sont reconnues par leur communauté et par leur collectif que des sortes de boîtes ou de cases dans lesquelles on va ranger des personnes en décidant qui est au-dessus de l'autre, tu vois, et donc ça veut dire que cette parité veut dire aussi une parité en tant qu'être humain. Il y a un respect pour l'autre, quel que soit son rôle, quel que soit son origine, ses préférences. Donc, cette parité est porteuse de diversité aussi, de respect de ces différences. Et ça, c'est un des critères aussi fondamentaux de l'intelligence collective. Et parmi les études scientifiques qui ont été faites, sur ce sujet de l'intelligence collective dans des groupes, dans des personnes qui se réunissent pour innover, pour trouver des solutions à des problèmes, eh bien, la parité en termes de temps de parole, l'équité des temps de parole a été un des paramètres clés démontrés comme étant justement un des leviers de l'intelligence collective.
Aujourd'hui, l'intelligence collective, on va faire une journée d'intelligence collective dans les entreprises.
Oui.
C'est un peu une boîte dans la boîte.
Oui, alors,
Quand tu en parles, tu parles d'organisation, totale, quoi.
ouais, tout à fait. Ah ben ça me fait très plaisir que tu viennes sur ce sujet-là, parce que dans ce qu'on peut observer, on va dire aujourd'hui de l'intelligence collective, il y a une tendance à se concentrer sur une unité qui est par exemple, tiens, une journée. On va faire une journée, une session ou un workshop ou un séminaire. Il y a tout un tas de vocabulaire. Pour finalement, tiens, et si aujourd'hui on réunissait allez, 100 collaborateurs ou 500 ou peut-être 50, je ne sais pas, et si aujourd'hui on fonctionnait différemment, on prenait appui sur la richesse de toutes ces personnes, si on crée des, si on, si on, met, on établissait des règles du jeu différentes pour qu'ensemble, sur cette journée, on puisse vraiment fonctionner en intelligence collective. Donc, ça, c'est la focalisation du moment, on va dire. Et OK, on peut le faire. On peut le faire, bien sûr. Sauf que on passe à côté du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est pas comment, de manière exceptionnelle, on va créer un moment d'intelligence collective et puis après retourner dans ces organisations qui s'y opposent, qui sont, on pourrait dire, pratiquement orthogonales. Non, le sujet, c'est comment aujourd'hui, dans les organisations, mettre en place des modes de fonctionnement, créer des conditions et un terrain de jeu qui soit génératif d'intelligence collective. C'est ça le sujet de fond, et qui est valable dans les organisations et qui est valable dans la société aussi, de façon encore plus macroscopique. Et là, du coup, ça pose des questions qui sont absolument fascinantes, quoi.
Tu as parlé de règles du jeu. Quelles
Ouais.
sont les règles du jeu de l'intelligence collective?
Alors, tu vois, on a commencé à en découvrir. Tu disais tout à l'heure cette parité. Cette
Donc ça,
parité,
c'est une des règles.
c'est une des règles. Deuxièmement, tout à l'heure, je parlais d'auto-organisation. L'auto-organisation, c'est tout simplement le fait de considérer que c'est le collectif lui-même qui va trouver ses solutions, et y compris ses solutions organisationnelles, pour créer une forme de structure qui pérennise la capacité d'intelligence collective d'un groupe. Donc, cette auto-organisation, c'est indispensable pour pouvoir, à un moment, espérer enfin, créer de l'intelligence collective.
Ce qu'il y a, c'est que d'expérience, quand tu me dis ça, j'ai vu beaucoup de groupes fonctionner. Auto-organisation, on vient aussi avec nos schémas en tête. Et il est très difficile de s'en dégager. Donc cette auto-organisation, il faut avoir confiance quand même dans les individus du collectif. C'est pas évident. Comment on fait pour que ça réussisse?
Oui, bien sûr, l'auto-organisation, la confiance, c'est évident. Il y a trois. Moi, j'ai développé ce point-là dans le livre sur ce que sont les trois besoins psychologiques fondamentaux qui ont été identifiés par tout le courant de l'autodétermination, en particulier les chercheurs que sont Edward Deci et Richard Ryan. Et ça, c'est vraiment fondamental aujourd'hui dans quand on se préoccupe d'intelligence collective, il y a besoin de réfléchir à la question de qu'est-ce qui fait que les personnes vont être engagées, vont être motivées à contribuer, à s'impliquer pour un projet, pour une cause, pour une finalité. Et donc ces trois besoins-là, c'est le besoin d'autonomie, le besoin d'affiliation et le besoin de compétences. Et quand on regarde par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la confiance, il y a besoin d'avoir confiance. Ben oui, si finalement dans les organisations, on permet à des personnes de développer leur autonomie, par exemple, elles vont progressivement montrer ce qu'elles savent faire, avoir une curiosité pour apprendre à faire plus, développer de nouvelles compétences. Interroger des pairs sur de nouvelles pratiques, de nouvelles options, et en parallèle créer des relations de qualité, de proximité avec ses pairs. Et donc là, on arrive sur ce besoin d'affiliation qui est fondamental. Et cette affiliation se fera d'autant plus que ces personnes se considèrent comme pairs. Si quelqu'un regarde l'autre, finalement, en lui faisant sentir qu'il est inférieur, hein, comme ça se voit régulièrement dans les organisations, de fait, on crée un obstacle à une communication riche, ouverte, authentique, qui serait nourrissante, hein, sur ce plan de ce besoin psychologique. Et puis le troisième besoin de compétence, justement, c'est le besoin de se sentir en capacité d'agir et d'avoir une influence sur son environnement, donc sur son organisation, si on reste sur le sujet des organisations. Et ça, il se développe progressivement par la pratique, par l'action, par le fait de progresser et de voir son propre impact auprès des autres, quoi.
Je suis étonnée qu'il y ait l'autonomie qui soit posée comme ça d'emblée. J'étais arrivée à la conclusion, moi j'ai un fort besoin d'autonomie, ça j'en suis, quoi, je l'ai constaté, et je pensais qu'en fait tout le monde ne l'avait pas forcément.
Ouais.
Donc tous les êtres humains, toutes les personnes ont ce besoin d'autonomie?
Oui. Ouais. Ça fait partie des découvertes de ce courant de l'autodétermination avec des recherches qui sont massives depuis maintenant plus de 40 ans. Alors, ce qu'ils ont aussi découvert, c'est qu'il y a des nuances quand même dans une sorte de préférence personnelle. Avec certains qui peuvent être extrêmement. C'est ce qu'ils appellent des différences d'orientation causale. En tout cas, ce besoin d'autonomie, il est valable pour tout le monde. Alors, le piège, et ça, moi, je l'ai observé très, très, très souvent, ou entendu aussi très souvent, c'est que si tu prends une personne dans une organisation à qui, justement, on n'a pas laissé d'espace d'autonomie, on a expliqué ce qu'elle doit faire, on lui a dicté comment elle devait agir, et ainsi de suite. Eh bien, il y a un moment où cette personne, finalement, finit par croire que elle peut réussir à fonctionner comme ça, et que même si ça ne lui convient pas forcément, mais qu'en tout cas, elle a, c'est comme si on avait éteint, de manière en tout cas pas complète, mais provisoire, cet apparent besoin d'autonomie. Et moi, j'ai entendu effectivement très très souvent des personnes qui disent, mais moi, ce que je fais, ça me va comme ça, on me dit quoi faire, je le fais, et puis basta, le soir, je rentre et je suis tranquille, je n'ai pas besoin de plus d'autonomie. Mais c'est une forme d'accoutumance à des modes de fonctionnement qui sont aliénants, puisque finalement, quand l'activité d'une personne est régulée par quelqu'un d'autre, que ce soit un manager ou que ce soit l'organisation, c'est un fonctionnement qui est aliénant et donc qui est mauvais pour la santé. Hein, ça a été démontré. Donc, à force de pratiquer comme ça, ça finit par masquer, hein, tous ces symptômes, on va dire, de dysfonctionnement, finissent par masquer ce qui est la réalité normale des personnes. Et quand on observe des enfants, par exemple, bah, ils ont besoin eux-mêmes de choisir leurs propres mouvements, de choisir ce qu'ils font, où ils vont, de quels objets ils sont curieux, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils vont goûter, mettre à leur bouche, quel type d'activité physique ils vont. C'est eux qui choisissent tout ça, parce que c'est dans notre nature.
Et aujourd'hui, quels sont les outils de l'intelligence collective?
Alors, c'est un vaste sujet, parce que justement, quand on parle d'outils de l'intelligence collective, il y a une certaine tendance à, du coup, se refermer sur le fameux sujet qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire, hop, une session d'une journée, et tiens, bah, j'ai un jour, co comment je m'y prends, quoi? Qu'est-ce que je fais pour finalement créer de l'intelligence collective sur cette journée-là? Et moi, dans mon livre, ce que j'essaye de faire justement, c'est de travailler sur un plan qui est en dessous. C'est vraiment de se préoccuper de qu'est-ce qui conditionne et permet de l'intelligence collective, et qui finalement, c'est une espèce de terreau sur lequel les différents outils viennent se positionner. Mais rester à l'échelon des outils, c'est insuffisant. Parce qu'on passe à côté du fond du sujet. Mais alors maintenant, si, voilà, une fois que j'ai dit ça, c'est pas pour esquiver.
Non, mais je peux réagir quand même, puisque tu dis que ce qui conditionne, on a vu la parité, l'auto-organisation, il y en avait d'autres à ce moment-là. On parle bien de ça, hein.
Oui, ouais, tout à
C'est ce qui est
fait. Tout à fait.
sous-jacent.
Ouais, exactement. Tout à fait. Ben, en fait, dans ce qui conditionne, donc il y a aussi ces trois besoins psychologiques fondamentaux, hein,
Ouais.
qui sont
Autonomie, affiliation et
et
compétences.
compétences, exactement, ouais, qui vont être des socles, je dirais, nécessaires, parce que quand on regarde, je refais un petit détour par les exemples du monde des animaux, en fait, on ne peut pas avoir de l'intelligence collective, donc d'un super organisme, colonie de fourmis ou banc de poissons ou nuée d'oiseaux et ainsi de suite, si les besoins de chacun des membres du collectif sont contrariés. C'est-à-dire que tout organisme biologique a besoin d'avancer et de satisfaire ses propres besoins individuels pour être au service du collectif. Et donc c'est pour ça que ces besoins psychologiques fondamentaux sont vraiment des guides qui servent comme, voilà, un petit peu, on pourrait dire, un terreau sur lequel vont pousser des choses qui peuvent être un jour de l'intelligence collective. Alors après, il y a un autre socle qui est franchement évidemment indispensable, c'est toute la question du dialogue, puisque c'est une des particularités quand même de notre espèce, d'avoir su développer un langage oral, mais aussi un langage écrit, qui est d'une richesse absolument incroyable, et c'est ce qui a forgé toutes nos cultures. Et Pierre Lévy, lui, est vraiment un de ceux qui a le plus développé ce thème-là et l'explique avec le plus de, je dirais, de clarté. Je dirais, les socles de l'intelligence collective sont ben, finalement les cultures qui se sont développées au fil des siècles, on va dire, et sur lesquelles chacun nous construisons. Les outils d'aujourd'hui sont dérivés de ceux d'hier. Et ce sont finalement des créations qui, aujourd'hui arrivent dans le collectif sont à disposition comme des briques, comme des Legos, sur lesquels chacun va pouvoir utiliser, s'appuyer pour recréer une nouvelle forme d'intelligence collective. Donc je suis parti du dialogue, je suis arrivé au langage et je suis arrivé à la culture. Mais si on revient sur le dialogue, parce que typiquement, quand on prend une session d'une journée et qu'on rassemble 50 personnes, OK, comment on va faire en sorte que ces personnes se parlent et créent ensemble justement autre chose que les conversations habituelles? Et puis si on revient justement dans les organisations, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les organisations pyramidales classiques ont des obstacles à l'intelligence collective? Au final, ça se retrouve, ça se manifeste dans le dialogue, dans les différents types de dialogue qu'on pourrait, je dirais, observer, écouter, enregistrer, comme là on est en train de le faire, et ensuite décoder. Donc, moi, je me suis appuyé sur un certain nombre de travaux qui se sont posés ces questions-là, on pourrait dire, modéliser qu'est-ce que c'est qu'un dialogue qui vraiment est créer de l'intelligence collective par rapport à typiquement un débat. Hein, un débat quand on voit à la télé, bon, moi
Surtout en France, ouais.
ça fait un certain nombre d'années que
On serait
je ne
dessus.
regarde plus. Ouais.
On ne s'écoute pas, on
Ouais,
hurle.
voilà. Mais en fait, c'est dramatique parce qu'on en rigole. Mais au final, il y a un effet d'acculturation qui est juste colossal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dès qu'il y a un sujet sérieux, le seul mode de conversation qui est montré comme exemple, c'est un débat où c'est une joute, donc un combat, hein, c'est avec des armes qui sont les mots, le langage. Eh bien, si ça, c'est le seul modèle qu'on a de conversation, ben après, c'est répliqué tout le temps et toujours en croyant que c'est comme ça qu'on crée une conversation. Alors que finalement, quand on regarde les débats tels qu'on les voit, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a absolument pas d'écoute, hein, il y a zéro écoute, il y a juste finalement deux points de vue qui s'opposent, où chacun essaye de faire valoir ses arguments plus fort que l'autre, de trouver la faille dans l'argumentation de l'autre pour dominer, écraser et vaincre. Hein, c'est d'ailleurs. Voilà, sur le plan étymologique, hein, c'est toutes ces notions de discussion et de débat sont vraiment dans la notion de combat ou de domination.
Mais même ces organisations, donc je reviens un peu à l'entreprise, les
Ouais.
entreprises telles qu'elles sont aujourd'hui, elles exploitent quand même de l'intelligence collective. Je veux dire, c'est quand même un collectif qui construit quelque chose, qui crée quelque chose. Même si aujourd'hui ce sont des journées où
Ouais.
en fait on explore les outils. Alors c'est vrai qu'on a dit que c'était plus les outils, c'est un peu limité, mais ça permet aussi de commencer à découvrir d'autres manières d'être en relation,
Oui.
ça a quand même du bon, je pense que les entreprises fassent ça.
Oui,
Je
oui.
prêche pour ma paroisse, hein.
Oui, tout à fait. Bien sûr. Ouais. C'est quoi ta paroisse alors, du coup?
C'est le talentoscope, puisque je fais moi j'interviens dans les séminaires d'entreprise, donc c'est en effet de l'intelligence collective, ou en tout cas du dialogue, beaucoup de points de contact et de
Oui.
communication qui font que ben on se découvre
Oui.
autrement.
Mais tout à fait. Il y a un auteur que j'ai trouvé super intéressant s'appelle John Holloway, qui étudie comme ça des espaces ou des temps, justement, qui sont un petit peu ce qu'il appelle, lui, des sortes de fractures dans le système classique des organisations, on va dire hiérarchiques, pyramidales, et ainsi de suite, et capitalistiques. Et lui, il dit que ce qui est intéressant, c'est de regarder dans la société des temps de fracture où on peut créer des moments justement qui sont de nature autre, des moments où nous allons vivre tel que tu le décris. Et effectivement, ça peut être sur une journée, ça peut même être sur une conversation de 2 heures, tout d'un
Bah ça
coup.
dure 2 heures, moi, le
Et
dialogue, donc tu vois,
bah, tu
comme
vois.
quoi.
Et bah ouais. Et bah si tout d'un coup sur un moment comme ça. Il se crée un moment qui, enfin, un espace et un lieu et une rencontre qui tout d'un coup permet de se connecter à une autre capacité de dialogue, une autre capacité de rencontre et d'écoute de l'autre, de prise en considération des personnes, et du coup de diversité des points de vue qui ont leur place, qui sont acceptés, qui sont reconnus, eh bien, au moins, ça, c'est quelque chose qui, à un moment, touche. Et permet de se dire, ah mais oui, ça existe, c'est possible, et j'aimerais bien en faire plus de ça. Donc ouais, je suis d'accord sur le fait que c'est vertueux, et que c'est comme si ça semait des petites graines. Maintenant,
Il faut qu'on vise bien plus loin, bien
ouais,
avant.
voilà, exactement, tout à fait. Moi, c'est ça que je me dis aujourd'hui, face à ces défis complexes que nous avons dans la société, celui du climat, de l'environnement n'étant pas le moindre. Eh bien, je crois qu'il est quand même important que, enfin, après, ça dépend des personnes, moi, c'est ce que je me dis, de se fixer ouais, une ambition plus grande en termes de capacité d'utiliser l'intelligence collective, de la répandre, de permettre qu'elle soit plus, finalement, un mode naturel et pratiquement par défaut, plutôt qu'un mode exceptionnel, qui arrive dans des fenêtres de temps, quoi.
J'aurais des centaines de questions à te poser. Malheureusement, le temps file et a filé très très vite.
Ouais.
Je me permets juste une dernière question. Qu'est-ce que tu penses de systèmes comme l'holacratie? Est-ce que c'est des systèmes d'intelligence collective? Est-ce que ce serait aller vers des choses comme ça?
Alors, ah oui, la dernière
Ah,
question,
question épineuse, hein?
la question de la fin en 30 secondes. Alors, ce qui est intéressant avec ces approches, c'est justement de se poser les vraies questions sur le fonctionnement des organisations. Donc c'est ça qui est vertueux, c'est de revisiter comment un collectif, et quelle que soit sa taille, pratique. Et donc, du coup, quelles règles du jeu il élabore. Et dans ce sens-là, Lola, puisque tu parles de
Ou
l'holacratie,
la sociocratie,
voilà,
ou
exactement.
d'autres, hein.
Ouais, tout à fait. Donc, en fait, ce type d'approche viennent sur ce terrain-là. Et donc, ça, c'est vraiment important, essentiel et vertueux. Personnellement, moi, j'ai une préférence pour la sociocratie qui est à l'origine de. Enfin, franchement, l'holacratie a récupéré l'essentiel de ce qu'on avait dans la sociocratie, l'a rebaptisé et puis en a fait une application commerciale. Donc, ok, je veux bien. Maintenant,
C'est dit.
l'autre aspect, c'est que moi, sur lequel je trouve qu'il y a une limite dans l'holacratie, c'est qu'il y a une rigidité qui est extrêmement forte. Extrêmement forte, et on en finit par avoir un manque de considération pour les personnes. Moi, j'ai rencontré, écouté ou lu beaucoup de choses sur une forme de souffrance associée à cette pratique-là, et qui pour moi est absolument à l'opposé de l'intelligence collective. Euh,
Oui.
donc,
On revient, au lieu de se faire une pyramide, on revient à des murs, des cloisons
d'autres
et...
formes de rigidité qui cette fois-ci
Ouais.
passent par des procédures, une constitution et des pratiques qui deviennent non négociables et qui s'imposent aux personnes, même si leur finalité est certainement vertueuse, mais dans leur pratique, dans la façon dont ça se passe, il y a des failles. Alors moi, si, puisque tu tends cette perche, moi j'encourage ceux qui se questionnent vraiment sur le fond de la constitution d'organisations qui soient vertueuses et propices à l'intelligence collective, moi je les encourage à aller plutôt vers tout ce secteur qu'on appelle le courant des communs et qui a été élaboré, constitué par Elinor Ostrom, qui est une chercheuse qui a eu un prix Nobel d'économie. Et là, typiquement, quand je parlais tout à l'heure de cet exemple des parcs pommes de terre au Pérou, ou de Wikipédia, ou de plein d'autres choses, de coopératives agricoles, ou de coopératives de travail de toute nature, là, on trouve et à la fois, je dirais, des principes de gouvernance qui sont élaborés et testés, qui ont été mis à l'épreuve de centaines d'années. Donc ça, c'est autre chose. Et qui aujourd'hui ont cette capacité vraiment à permettre à un collectif de s'auto-organiser selon des règles qu'il va choisir lui-même et qui seront saines et permettant une production commune, quoi.
Donc on arrive à la fin du temps qui nous est imparti pour discuter du sujet, mais est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose d'important qu'on n'aurait pas dit?
Alors, bah, on a dit pas mal de choses, hein. C'était super. Peut-être, je réfléchis, hein, peut-être un des points qui m'a. C'est quelque chose qu'on a évoqué un moment un petit peu, mais revenir sur cette notion d'histoire, tu vois, quand tu disais, mais en fait, on a toujours eu cette capacité d'intelligence collective. Et moi, je trouve que c'est un point à creuser. C'est-à-dire, je m'explique, l'histoire telle qu'elle est racontée a fait beaucoup l'impasse sur notre capacité d'intelligence collective et sur justement des collectifs qui s'auto-organisaient et qui fonctionnaient en bonne intelligence tout au long de notre histoire. Et c'est peu, voire pas présent dans nos livres et dans les récits. Hein, si on considère que finalement ce qui nous construit, ce sont les récits que nous entendons, dans lesquels nous baignons depuis notre enfance, moi je crois que l'un des défis que nous avons pour aussi accroître l'intelligence collective, c'est de développer la présence de ces récits, de ces aventures, de ces narrations, de ces histoires qui sont bien réelles et qui montrent tout un ensemble de facettes de ce que peut être l'intelligence collective aujourd'hui. Il y a beaucoup d'exemples extrêmement inspirants où le bien faire et le bien vivre se combinent. Et puis, il y a aussi tout un ensemble d'exemples dans notre histoire. Moi, j'en ai développé un certain nombre dans le livre, mais il y en a beaucoup plus à aller chercher. Moi, j'encourage vraiment à faire ce travail de quelque part de reconstruction de
T'as
notre
l'impression
histoire.
d'être au cœur d'une révolution ou pas? Parce que c'est vrai que ça pourrait complètement changer notre rapport
Ouais.
les uns aux autres,
Moi,
la
je le
façon dont
crois.
on travaille, la
Ouais. Ouais, tout
politique,
à fait. Moi, je le crois.
tout ce qui
Ouais.
organise la
Tout à fait.
société en fait.
Tout à fait. Moi, je le crois, ouais. Qu'on est vraiment au cœur de cette, de ce, on peut appeler changement de paradigme, parce que changement de paradigme, c'est changement de façon de voir le monde et qui ensuite découle, duquel découle finalement un changement de pratique et de façon de faire. Il y a parmi les courants qui vont certainement se développer dans ce sens-là, c'est tout le mouvement coopératif qui n'est pas nouveau, mais qui reprend beaucoup de vigueur avec les différentes lois qui sont arrivées sur l'ESS, les modifications aussi de réglementation sur les coopératives. Et donc aujourd'hui, il y a des statuts, par exemple le statut de SIC qui est arrivé récemment. Et qui est extrêmement favorable à justement à la naissance d'un collectif fonctionnant en intelligence collective.
Parce que j'ai l'impression que les défis environnementaux accélèrent
Oui.
peut-être le fait qu'il faut qu'on change de
Ah
vision,
oui,
qu'il
oui.
faut qu'on change d'attitude par rapport aux choses, et donc ça pourrait accompagner cette
Oui,
révolution.
carrément. Et ça fait lien avec un thème que j'ai développé au tout début, c'est-à-dire cette notion de système complexe adaptatif. C'est-à-dire que le climat, l'environnement, la planète sont, au sens biologique, des systèmes complexes adaptatifs qui ont leur propre évolution, leur propre fonctionnement, qu'on ne peut pas maîtriser en s'attaquant à un critère, à un levier seul. Et notre société, c'est pareil. S'il y a une volonté de faire évoluer notre système complet de notre espèce vers quelque chose qui soit plus sain, plus compatible avec la vie sur cette planète et même la vie entre nous, ça veut dire adopter des modes qui sont les mêmes que ceux de la nature. Non pas que ce soit limitant, au contraire, c'est quelque chose qui va nous tirer vers le haut en utilisant toutes nos capacités de langage, de réflexivité et qu'on a acquis au fil de ces siècles, voire millénaires. Ouais.
Bon, je coupe toutes les questions qui sont en train de naître dans ma tête parce qu'il faut vraiment qu'on passe au questionnaire, sinon ce podcast va durer 1 heure et demie. Je commence avec la première question. T'as vu, je te laisse pas le choix, j'y vais. Est-ce que tu pourrais me raconter une histoire d'un échec personnel ou professionnel qui t'a particulièrement fait progresser?
Un échec personnel, ça n'est pas que un échec, mais c'est mon mariage, ouais, effectivement, hein, sur lequel il y a eu beaucoup de choses très positive, évidemment, dont la
Tes
naissance
quatre
de
enfants.
mes 4 enfants, ouais, exactement. Donc, il y a eu beaucoup de très très belles choses, ici, y compris des moments, voilà, forts. Et puis aussi le constat progressif que justement, on n'avait pas su se préserver de pièges qui créaient une toxicité qui s'accumulait et petit à petit créait un fossé qui devenait un gouffre, quoi. Donc, c'est certainement ce qui m'a aussi permis le plus d'apprendre. Comment changer moi mes attitudes, mes comportements et faire en sorte que. Et là, je suis tombé sur un auteur qui est fantastique, qui s'appelle John Gottman. J'encourage vraiment sa lecture sur ce qui fait qu'un couple fonctionne bien, quoi.
Le Love Lab,
Oui,
c'est peut-être c'est lui,
exactement,
hein.
c'est lui, ouais, il est génial.
Et t'aurais peut-être un apprentissage important, quelque chose
Oui.
qui t'a fait changer.
Ah bah oui, tout à fait. Ah bah oui, parce que lui ce qu'il a vraiment montré dans son Love Lab, c'est que tout se joue très très vite, et il l'observe d'ailleurs, il le mesure comme ça, quand un des partenaires finalement initie une conversation ou un début de conversation avec l'autre, lui ce qu'il dit, c'est qu'il y a 3 types de réactions. Soit ce qu'il appelle se tourner vers, qui veut dire... Bah, rentrer dans le jeu de la conversation, contribuer, participer et tout ça, soit se tourner contre, et ça veut dire finalement d'une façon ou d'une autre s'opposer à cet acte qui engageait la conversation, ça peut être par un soufflement, ça peut être par...
Oui, c'est ce qu'il appelle les quatre cavaliers ou quelque
Alors,
chose comme ça, le
ouais. Alors
dédain
les
et...
4 cavaliers, ils arrivent après, en fait. Il y a le contre qui va être non pas contre les mots ou l'idée, mais contre la personne. Et puis, il y a la troisième attitude qui est carrément se détourner, faire semblant de ne pas avoir entendu, continuer à regarder son livre ou son smartphone ou autre chose.
C'est horrible.
Et ouais, exactement, c'est horrible. Et en fait, simplement en m'observant fonctionner et en voyant comment je réagissais, je me suis rendu compte de mes pièges, hein, dans lesquels je tombais. Et du coup, maintenant, j'ai une vigilance qui est... voilà, c'est une espèce de système d'alerte, et quand je me vois partir sur une des mauvaises pistes, je me reprends directement et hop, ça y est, je récupère le coup, quoi. Donc c'est très très pragmatique, quoi.
Je trouve ça intéressant parce que dans le couple, on retrouve une des bases pour le fonctionnement de l'intelligence et de l'intelligence collective, c'est la
Ah
communication.
oui. Ah oui, carrément. Ben...
Et on n'apprend pas vraiment à communiquer,
Ouais,
bon,
ouais.
sauf si on écoute mes podcasts, mais
Et
parce
oui.
que j'ai interviewé des gens sur ces
Ouais.
sujets, notamment la communication non violente,
Ah
mais
ben, bien sûr.
c'est vrai que la communication semble être
Oui.
au cœur de toutes les relations et notamment aussi de l'intelligence
Ah mais
collective.
carrément. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'aussi, enfin, moi, je parle de John Gottman dans mon livre, parce que finalement, exactement comme tu fais le lien ici, de dire que finalement, c'est dans le couple, et puis après, dans la famille, qu'on va apprendre déjà les bases. Et les conditions pour créer un environnement sain, épanouissant et tout ça, bah ouais, le lien, c'est important de le faire. Et moi, je crois qu'il y a vraiment un axe de travail très intéressant, c'est l'intelligence collective de la famille ou du couple, tu vois, pour progresser dans cette
Mais je crois que
dimension.
la sociocratie, elle fait ça d'ailleurs. Elle s'intéresse à la famille. On peut utiliser le principe de
Oui,
la sociocratie dans la famille.
tout à fait, il y en a qui le font, ouais. Ouais, bien sûr.
Ouais. Alors, deuxième question, est-ce qu'il y a une technique ou un outil qui, pareil, t'a fait avancer ou quand tu l'as découvert, tu t'es dit, waouh, c'est génial?
Il y en a une qui m'a beaucoup marqué, que j'utilise régulièrement, qui s'appelle la Deep Democracy, qui,
Ah oui.
ouais, en fait, qui veut dire beaucoup de choses. L'auteur, le fondateur de cette approche, c'est Arnold Mindell, qui s'est beaucoup appuyé sur les travaux de Carl Jung. Et en gros, lui, quand il dit Deep Democracy, c'est pour dire que finalement, c'est faire en sorte que cette démocratie se préoccupe aussi de la profondeur des personnes, de l'être, et donc typiquement permettre une connexion de ce qui se passe dans la réalité extérieure, donc qu'on va débattre et discuter très facilement, mais aussi avec ce que vit la personne intérieurement, le sens qu'elle y trouve, et puis même des dimensions inconscientes qui vont s'exprimer de différentes manières. par des formes de polarisation, par des formes de rejet, d'exclusion, de toutes ces dimensions-là, quoi. Et donc, c'est super intéressant. Et il y a, à côté de ça, il y a des protocoles qui sont, je dirais pas simples parce que c'est pas exactement ça, mais en tout cas qui sont utilisables, qui parfois sont traduits en français sous le terme de débat mouvant, où on va rendre visible dans une conversation par le déplacement, on va rendre visible les polarisations qui se créent. Donc ceux qui sont tout à fait pour une idée qui est affirmée et ceux qui sont tout à fait contre. Et progressivement, au fil de la conversation, les personnes se déplacent et bougent pour marquer et montrer finalement comment elles se positionnent. Et chacun prend la parole comme au fil de la conversation, comme il le souhaite. Et donc, évidemment, ça crée à certains moments des moments de polarisation, d'opposition, de tension, qui, si le climat le permet, vont pouvoir se dépasser, se transcender là en live, on pourrait dire, dans le collectif, en touchant vraiment la profondeur de la personne, quoi. C'est vraiment une très très belle approche, quoi.
Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Oh, moi je dirais, allez, si on n'avait qu'une, par exemple, ce serait l'humilité. L'humilité véritable, pas faire semblant, c'est-à-dire, du coup, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur cette notion de pair à pair. Si un manager qui par nature a un pouvoir supérieur aux autres, finalement cultive en parallèle une humilité qui lui permet de savoir qu'il est au même niveau que les autres, c'est un humain comme les autres qui a juste un rôle peut-être différent. À ce moment-là, il va peut-être pouvoir faire un bon usage de ce rôle qui lui est confié. Et ça me fait penser à un principe qu'ont les apatistes, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est absolument génial, ils sont fantastiques. Et ils disent que chez eux, les leaders, hein, qui sont élus, hein, ils ne sont pas nommés par un supérieur, ils sont élus par les personnes, les leaders doivent commander en obéissant et obéir au collectif, en fait, qui les a élus. Je trouve ça une magnifique illustration de cette notion d'humilité, quoi.
Je vois passer le mot leader,
Oui,
serviteur
ouais, c'est.
de plus en
Ouais, tout à
plus.
fait. Ouais, exactement. Bah, c'est le concept de servant leadership qui a été élaboré par Greenleaf aux États-Unis, tout ça. Donc oui, c'est super important. C'est dans cette veine-là, ouais.
Maintenant, est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais nous conseiller à la lecture?
Ah, tout à fait. Bon, je ne vais pas conseiller le mien, hein, évidemment. Mais
Voilà.
non.
Et d'autres ont essayé avant toi.
Voilà. Alors. Non, 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 moi je vais en conseiller un autre, c'est Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons de Edward Deci, DECI. En fait, ce livre, c'est justement c'est un livre accessible sur ce courant que j'évoquais tout à l'heure, qui est le courant de l'autodétermination, et qui permet d'approfondir véritablement cette question de qu'est-ce qui nous motive, quels sont les leviers de notre action, mais aussi, surtout, finalement, qu'est-ce qui se joue entre une personne, par exemple, qui va avoir une autorité, donc tu parlais tout à l'heure du manager, mais ça peut être aussi un enseignant, ça peut être aussi un parent. Et là, du coup, on touche des domaines de la vie où on est tous concernés, d'une façon ou d'une autre, dans une de nos facettes ou l'un de nos rôles, et de se dire comment on fait usage de cette autorité pour créer un environnement qui est soutenant, qui soutient en particulier les trois besoins psychologiques fondamentaux, et non un environnement qui est contrôlant, et qui, lui, du coup, va créer de l'aliénation. Et ça c'est juste fantastique, quoi. Donc, ce livre, ouais, il est d'une aide précieuse.
Je le mettrai dans les commentaires ou en tout cas dans l'article du blog qui ira avec ce podcast. Il est
Génial.
sur iTunes et sur SoundCloud, ainsi que une citation qui pourrait qui t'inspire.
Oh, une citation qui m'inspire.
Ah, pas facile, hein?
Eh bien, écoute, Ouais, alors je pourrais dire par exemple, si je veux rester simple sur notre sujet, l'intelligence collective, une citation de Francis Elligan, qui est un chercheur belge qui a beaucoup écrit sur l'intelligence collective, et qui dit: l'émergence de l'intelligence collective est intrinsèquement un processus d'auto-organisation.
Super, merci beaucoup Olivier. Comment est-ce qu'on peut te joindre? C'est quoi le moyen le plus direct ou en tout cas que tu préfères? Tu as un site internet?
Eh bien, j'ai.
Parce que tu es multi-activité en plus toi, donc est-ce qu'il faut utiliser différents canaux pour te joindre en fonction de...
Bah, ça peut être par LinkedIn, ça peut être par Twitter.
Ouais, tu es sur tous les réseaux sociaux. Ça? Je mettrai un lien vers LinkedIn alors.
Ouais, tout à fait. Et alors, tu
Très
peux
bien.
mettre un lien vers. J'ai créé, et je vais l'animer et le nourrir progressivement. J'ai créé sur Medium. Une publication qui s'appelle Découvrir l'intelligence collective, qui est une sorte de prolongement du livre, tu vois, et je vais l'enrichir progressivement.
Pour finir, j'aimerais bien savoir de quoi tu as envie, quels sont tes projets, tes rêves, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir en ce moment?
Ah ouais, super ça. Et bah écoute, parmi les rêves que j'ai, c'est avec ma compagne, avec qui nous faisons tout pour vivre justement un couple qui est sur un mode d'intelligence collective, et bien c'est de créer une coopérative qui puisse justement permettre le développement de cette intelligence collective dans la société. Et avec le statut coopératif, c'est donc d'être multi-acteur et donc d'impliquer à la fois des partenaires, des producteurs, des salariés, des bénéficiaires, qui ensemble seront impliqués dans la gouvernance de cette coopérative.
Qui fera de la formation, tu veux dire?
Alors, qui fera par exemple de la formation, mais aussi par exemple d'autres formes d'accompagnement ou de sensibilisation ou d'éducation. Par exemple, on a vraiment beaucoup envie de travailler sur le thème justement de la famille, voire de la sensibilisation, de l'éducation des jeunes à l'intelligence collective, pour que très tôt ils prennent finalement des réflexes aussi qui soient beaucoup plus favorables. Donc, ça, c'est vraiment un axe, ouais, ça fait partie des rêves là.
Bon bah, je te souhaite que ça se réalise. Je te
Oh,
remercie pour le
c'est
temps.
super.
D'ailleurs, on a pris pas mal de temps, mais
Ouais.
vraiment, c'était un
Ouais.
plaisir.
Ben ouais, pour moi aussi, hein, c'était très chouette. Très chouette. Merci, Johanna. Et
Merci, Olivier.
bah écoute, tout plein de succès à toi aussi, hein, parce que
Merci.
ouais, toutes tes initiatives sont vraiment inspirantes. Bravo.
Merci. Cet épisode est long, donc peut-être qu'il faudra l'écouter en plusieurs fois. Je dis ça parce que je sais que beaucoup de gens l'écoutent en allant au travail et ça me fait penser à Blandine qui m'a laissé un commentaire. Alors en mai 2018, hein, mais je ne vais pas très souvent voir les commentaires sur la chaîne iTunes de Moodstep. Et donc je voulais lui dire un grand merci pour son commentaire. D'ailleurs, c'est le titre de son commentaire. Un grand merci, continuez. Un grand merci, Johanna, pour vos émissions. Je les écoute tous les jeudis matin en allant travailler et j'attends toujours avec beaucoup d'impatience le suivant. J'utilise très souvent dans mon quotidien vos idées, vos techniques et vos conseils auprès des salariés et employeurs dont j'ai la charge comme médecin du travail. Cela me permet de mettre de l'innovation dans mon métier et les employeurs comme les salariés s'y retrouvent. J'espère qu'un jour, un congrès pourra réunir plusieurs de vos intervenants autour des thématiques que vous développez et approfondir certains sujets. J'ai particulièrement apprécié celui sur l'anthropologie. Continuez à nous enrichir toutes les semaines avec votre voix qui chante et nous enchante, Blandine. Merci beaucoup, Blandine. Et vous aussi, si vous voulez laisser un commentaire, il suffit d'aller sur la chaîne iTunes de Moodstep. Il y a un onglet avis, notes et avis. Et là, vous pouvez me laisser un petit message qui fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et on se retrouve dès mercredi prochain.